Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Le Guay.
Michel Guéner, bonjour.
Bonjour.
Nous nous retrouvons aujourd'hui autour de votre livre, donc Les deux libéralismes, qui est à la fois une réflexion, une introduction d'une centaine de pages, et puis une anthologie, 350 pages, qui nous permet de mieux comprendre ce qu'est le libéralisme. Vous êtes un universitaire, un avocat maintenant, dans un prestigieux cabinet d'avocats parisiens, et vous poursuivez de livre en livre une réflexion sur le pouvoir, c'est-à-dire ses exigences et ses limites, et puis sur le libéralisme, son esprit et ses dévoiements. Et donc, vous venez de faire paraître ce livre qui nous réunit aujourd'hui. Alors, on peut dire de vous que vous êtes, et je reprends les termes et l'analyse qui étaient la vôtre dans votre livre précédent, qui s'appelle « Il faut terminer la révolution libérale », publié donc chez Flammarion en 2009. Donc, vous êtes un libéral, vous le revendiquez comme tel, et un libéral de longue date. Je vous cite « Nous fûmes libéraux quand personne ne l'était ». C'était il y a 30 ans, nous étions alors minoritaires. Mais vous êtes un libéral qui a accompagné le mouvement du libéralisme, son triomphe et, pour partie, comme je le disais, son dévoiement. Et vous êtes aujourd'hui, c'est du moins ce que vous dites dans votre livre, un libéral déçu. Parce que l'ennemi, qui était d'une certaine façon facilement repérable il y a 30 ans, le socialisme, le communisme, à l'extérieur du libéralisme, est devenu aujourd'hui un ennemi de l'intérieur, à l'intérieur du libéralisme. D'où vos mots très forts dans « Il faut terminer la révolution libérale », votre agacement, vos fureurs, vos combats contre ce dévoiement, ce détournement. Je vous cite « Si je condamne les errements dans lesquels les libéraux de mon temps, par orgueil et par inconscience, ont entraîné la belle pensée, la pensée libérale, j'appartiendrai toujours à ma famille ». Donc à la fois vous condamnez et à la fois donc vous appartenez à cette famille libérale, d'où ce souhait, effectivement, d'essayer de mieux comprendre, c'est l'objet de notre discussion d'aujourd'hui, de mieux comprendre et de voir comment peut-être réformer, aménager. Alors, la difficulté du libéralisme, c'est que tout le monde en parle sans bien savoir de quoi on parle, et d'autre part que ce libéralisme souffre peut-être de sa victoire. Il a remporté une victoire, il ne semble plus y avoir d'ennemis ou d'alternatives possibles, et les dévoiements sont à l'ordre du jour. Donc essayons de voir avec vous, si vous le voulez bien, de façon pédagogique et un peu chronologique dans cette première émission, nous en ferons une seconde sur les questions de la sortie de la crise de ce libéralisme-là, essayons de voir donc les deux libéralismes, et vous les distinguez, texte à l'appui, les deux libéralismes qui se sont progressivement mis en place. Alors, premier libéralisme, le libéralisme politique. 1680, 1690, lutte contre l'absolutisme. Alors, quels sont, selon vous, et puis après on va voir les différents auteurs que vous citez et qui sont au cœur de ce premier libéralisme, quel est, selon vous, l'ennemi, l'insurrection, le geste initial de ce premier libéralisme politique?
Ce premier libéralisme, il a en face de lui un pouvoir, le pouvoir de l'État moderne. On peut d'ailleurs même relever que la naissance du libéralisme politique est contemporaine de la constitution de l'État moderne. Cet État moderne, c'est l'État absolutiste. C'est l'État fabriqué par les rois français, avec les personnages forts de l'absolutisme, qui s'appelaient à l'époque les principaux ministres, aux côtés des rois français, et qui ont bâti une administration centrale absolutiste qui défie les vieilles libertés françaises et d'une manière générale les vieilles libertés européennes. Ce premier libéralisme est un libéralisme de résistance et de conquête d'un territoire de la liberté privée, face à l'empire, au périmètre, aux décrets, aux décisions du pouvoir monarchique. Alors c'est un libéralisme que l'on a pu considérer comme purement défensif ou négatif ou critique, Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'il défend face au pouvoir monarchique, il le projette dans une véritable construction de société. Alors, il naît essentiellement en France. C'est pourquoi, après avoir beaucoup réfléchi, j'ai mis Fénelon dans cette anthologie. Et bien sûr, après Fénelon, Montesquieu, Voltaire, qui sont des auteurs forts de l'écriture libérale politique, de ce premier libéralisme dont nous parlons, en Angleterre aussi. Et en Angleterre, avec des auteurs qui vont, si j'ose dire, de John Locke à David Hume, qui sont de grands auteurs libéraux contre, alors, non pas le roi anglais, mais le roi français qui est sur terre d'Angleterre et qu'ils veulent chasser pour se réapproprier les libertés parlementaires anglaises.
Alors, on peut dire que le premier libéralisme, donc ce libéralisme politique, est avant tout anglais. Il y a deux gestes, me semble-t-il, importants, que vous citez dans votre livre, évidemment. C'est un, la révolution parlementaire anglaise de 1688. Et puis, effectivement, vous étiez Locke. Donc, quelles sont ces deux initiatives, ces deux moments qui rentrent, qui viennent inaugurer un nouveau régime qui va fasciner Montesquieu, hein ? Quelles sont les bornes ou les avantages ou les innovations de ce régime parlementaire d'une part et puis philosophique ?
Il est indiscutable que les Anglais prennent l'avantage dans la construction du libéralisme politique. On a cité John Locke, vous avez cité la Révolution d'Angleterre de 1688, mais, et puis vous avez dit aussi fort justement que Montesquieu, dans l'esprit des lois, a ce fameux chapitre qui décrit la valeur presque absolue de la référence de la Révolution d'Angleterre, de la Constitution d'Angleterre, mais je ne suis pas parvenu, quand j'ai bâti cette anthologie, et en échangeant avec un certain nombre d'universitaires et d'intellectuels de premier plan dans notre pays, je ne suis pas parvenu à totalement écarter une filiation du libéralisme français. C'est pourquoi je cite Fénelon. Dans très peu de textes qui réfléchissent aux sources du libéralisme, on voit Fénelon apparaître. On a une présentation plutôt traditionnelle. Le libéralisme politique est anglais. Montesquieu, c'est un anglais chez les Français. Et tous les hommes du 19e siècle qui suivront le 18e siècle, les hommes des Lumières qui suivront les hommes des Lumières sont des anglophiles. En réalité, c'est peut-être un élément que j'ai voulu pousser audacieusement dans cette anthologie, il y a un vieux fond des libertés françaises qui n'a pas supporté dès le départ la monarchie absolue de Louis XIV. Et quand Fénelon fait cette formidable lettre à Louis XIV...
Que vous citez.
Quand il écrit cette lettre, qui est magnifique, il écrit ce qu'est le libéralisme aussi d'un point de vue français. Il l'écrit, alors évidemment, c'est un peu surprenant parce que lui a travaillé. D'abord, il est d'une religion qui a énormément participé à la fondation de l'État monarchique. Fénelon est catholique.
Ecclésiastique.
Ecclésiastique. Mais il écrit avec une plume, une audace et une liberté qui en font indiscutablement un libéral. C'est pourquoi, pour répondre à votre question, le libéralisme politique, indiscutablement, c'est l'école anglaise. John Locke, c'est très important. Montesquieu, quand il regarde la constitution de son pays, il préfère la constitution de l'autre pays. Et puis, les Voltaire et tous ceux qui suivront resteront toujours, toujours à regarder la liberté anglaise et à reprocher à la France de ne pas avoir, et sous la Révolution française, des auteurs comme Benjamin Constant ne feront que déplorer que la Révolution française n'ait pas adopté une constitution anglaise et ait fini dans cette boucherie abominable de Thermidor. Mais, dès le commencement, il y avait une fenêtre, un petit carré de la liberté française qui mérite aujourd'hui, historiquement, de refigurer dans la genèse du libéralisme politique.
Oui, donc ça veut dire que pour vous, cet aménagement d'un espace de la société civile, pour le dire en termes modernes, cette importance des corps intermédiaires, vous ne distinguez pas, ou vous avez du mal à distinguer, l'origine française, donc de cette noblesse, ce qui est le cas de Fénelon, qui effectivement s'adresse au roi, qui deviendra connu par Télémaque et qui l'amènera à sa propre disgrâce à l'égard de Louis XIV, son origine française et son origine anglaise. Pour vous, les deux sont en miroir, c'est ça ?
Dès le départ. Et l'évolution de la pensée, elle est constamment un chassé-croisé entre les deux écoles. Il ne faut pas oublier que, presque simultanément, mais on parle peut-être déjà du deuxième libéralisme, le libéralisme économique.
Alors,
on aura les physiocrates, qui devancent même Adam Smith. On ne peut pas considérer avec le recul que le libéralisme ait été une pensée purement anglaise, reprise par un effet de mode par les Français, et que la France, parce qu'elle avait Louis XIV et qu'elle aurait Charles de Gaulle, ne serait jamais un pays libéral. C'est faux. Ensuite, après, on aura de grands auteurs libéraux. Je parle de Raymond Aron, et je pense que dans notre temps, nous avons encore des auteurs libéraux. C'est vrai, cependant, que la monarchie a tellement été puissante en France qu'elle a comme cannibalisé l'espace des libertés et elle a presque monopolisé la pensée politique. Elle avait, malgré tout, un alter ego dans la résistance de certains libéraux français qui méritent aujourd'hui de figurer dans cette généalogie du libéralisme.
Pour en rester sur le libéralisme politique, vous insistez, vous mettez bien en évidence qu'il y a une connotation religieuse. Vous dites qu'il faut bien relativiser et ne pas considérer que tout le libéralisme politique est lié à ce souci-là. De quoi ? De tolérance, de réaction face à la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Mais la révolution anglaise, d'une part, la révolution américaine, surtout, a une connotation, une intention, une volonté d'émancipation, d'aménagement d'un espace de liberté religieux.
On peut l'expliquer par le fait que le libéralisme, c'est la doctrine d'un individu ou de l'individu, au sens le plus fort du terme, et que l'individu, quand il est seul face à l'État, il cherche une construction dans autre chose que ce que produit l'État. Et c'est vrai que la religion a été un aliment qui a contribué à construire un socle de l'individu, une morale de l'individu. Alors, il est vrai, là encore, si l'on commence par les évidences, que le protestantisme a été la religion de beaucoup de libéraux.
Je vous cite page 86, « La religion protestante a préparé la culture libérale, la question de l'autonomie de pensée, de la liberté de conscience, etc. »
C'est indiscutable, mais pour avoir échangé notamment avec Philippe Reynaud sur mon anthologie, Philippe me disait, et me challengeait, et me disait, mais non, David Hume, il n'est pas protestant. Puis il y a Fénelon, et puis il y en aura d'autres après, à commencer par Tocqueville. Donc, le protestantisme a un rôle considérable, mais encore une fois, quand on fait un véritable travail soigné, on s'aperçoit qu'il y a des auteurs qui passent à travers les mailles de cette première interprétation, et qu'aucune religion n'a le monopole du libéralisme, même si indiscutablement, le libéralisme par un certain puritanisme, par une volonté de se dissocier de la construction de l'État monarchique, auparavant a été extrêmement associé à la fondation protestante. Il reste que, et on le verra au XXe siècle encore plus parfaitement, le libéralisme n'appartient pas à une frontière religieuse déterminée.
Alors deuxième, parce que vous distinguez bien les deux et je pense qu'il faut les distinguer, deuxième moment ou second libéralisme, le libéralisme économique, plutôt au XVIIIe. Donc vous dites qu'à ce moment-là, naît la science économique, naît une réflexion sur, effectivement, toujours dans la même intention, c'est-à-dire dégager un espace pour la liberté individuelle face à la toute-puissance, au contrôle, au colbertisme qui laisse à supposer que l'État dirige, l'État contrôle, l'État organise. Bon. Et donc apparaît l'idée, effectivement, que le marché se régule par la main invisible, la fameuse main invisible d'Adam Smith. Alors comment est-ce que naît ce nouvel espace-là et comment est-ce que Adam Smith peut être considéré comme le père fondateur de ce libéralisme dans l'intention qui devient, en pratique, un libéralisme dans la sphère de l'économie, du marché, de la liberté individuelle appliquée au marché.
Les écrits fondateurs du libéralisme économique sont tout d'abord indiscutablement postérieurs aux écrits fondateurs du libéralisme politique. Donc on peut déjà dire, sans aucune exagération historique, que le libéralisme économique vient après le libéralisme politique. Et quand il commence à être énoncé par certains auteurs, on a presque l'impression qu'il n'est aussi d'abord qu'une part du libéralisme politique, qu'il n'est qu'un développement du libéralisme politique. On n'a pas inventé le libéralisme économique comme ça, d'une pierre jetée, il y avait le combat du libéralisme politique et en réalité, on a imaginé une déclinaison, un développement ou un complément du libéralisme politique par le libéralisme économique. Et on voit effectivement que les mêmes Locke qui se plaignent du pouvoir monarchique et veulent un espace politique pour l'individu pensent que le commerce libre va de soi dans des nations où les individus sont libres. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que très vite, ce libéralisme économique acquiert sa propre discipline, sa propre rigueur. Et il devient autre chose une sorte de démembrement ou de prolongement du libéralisme politique, il devient vraiment un libéralisme à part entière. Alors on le voit tout d'abord par la réflexion des physiocrates français, Turgot, Mirabeau, Le Père, et on voit l'Homénie de Brienne avec aussi beaucoup de ministres de Louis XV et Louis XVI qui sont des physiocrates dans l'âme, comme Turgot d'ailleurs.
Physiocrate donc, laisser la nature effectivement jouer pleinement son rôle.
Exactement, c'est-à-dire que l'idée c'est qu'il y a une première économie qui ne peut pas être captée par la décision délibérée des pouvoirs publics, c'est l'économie de la nature, l'agriculture. Et l'agriculture est l'économie par excellence des physiocrates libéraux du XVIIIe siècle. Alors, évidemment, les physiocrates, quand on les relit aujourd'hui, on voit beaucoup de naïveté et puis la simplification de l'interprétation de l'économie au seul monde de l'agriculture. Très vite apparaît Adam Smith, et lui est un auteur extrêmement fécond, capital, qui dépasse l'agriculture par le commerce et qui, alors, réalise cette démonstration qui, elle, est extrêmement forte. Elle est presque aussi forte que celle de Locke un siècle avant sur la séparation des pouvoirs pour la constitution politique. La démonstration d'Adam Smith, c'est qu'un marché peut avoir ses propres règles dès lors que tous ceux qui y contribuent sont portés par la réalisation d'un intérêt général naturel, invisible, immatériel, mais réel au final, de la société. Alors cette démonstration sur le marché par Adam Smith, elle est quasi l'équivalent de la démonstration de la vertu de la séparation des pouvoirs par John Locke. Là, on a véritablement les deux plus grands apports du libéralisme. C'est pourquoi d'ailleurs, a posteriori, on a souvent dit que ce libéralisme politique comme économique était anglais. Parce que là, on a deux auteurs qui ont une faculté de synthèse et de cristallisation des deux courants de pensée à deux moments différents qui sont évidemment considérables. Après Adam Smith, les grands auteurs français seront des pédagogues de la pensée d'Adam Smith. Ils ne dépasseront pas la pensée d'Adam Smith. Au XXe siècle, il y aura des développements, surtout dans les universités américaines, sur des éléments distincts du marché, mais on restera toujours porté par... Alors quelque chose qui est capital, c'est qu'en réalité, les individus, quand ils se comportent dans un marché, ils contribuent par leur travail et la recherche de leur intérêt particulier à cette espèce de construction d'un équilibre du marché qui résulte de leur action.
Alors vous montrez bien qu'il y a quand même toujours deux écoles. On est toujours entre l'école anglaise d'une part, et vous avez montré l'importance d'Adam Smith, et l'école française, vous parlez de Jean-Baptiste C, et puis de Frédéric Bastiat. Et que les deux, d'une façon ou d'une autre, là aussi poussent tous les deux dans leurs pays respectifs et en réflexion propre sur ce développement du libéralisme économique.
Nous sommes au début du XIXe siècle et on a le sentiment qu'une société libérale va naître, faite de tous ces auteurs que nous venons de citer et qui sont parfaitement déclinés, présentés, répétés, pas copiés, mais souvent reproduits dans leurs pensées telles quelles. Et là, on rentre véritablement dans une société de synthèse libérale. C'est sans doute le début du XIXe siècle, après les tourments de la Révolution française, le moment du rendez-vous du libéralisme avec l'histoire. On a, du point de vue politique, à la fois des Anglais et des Français qui sont parfaitement en accord sur une régulation de la politique moderne par la liberté des individus, avec des restrictions de suffrage, avec des constitutions qui s'imitent les unes et les autres, avec un parlementarisme qui devient dominant. Et d'un point de vue économique, on a un vrai parti pris vers le commerce libre. Alors, la France va avoir encore des résistances. Elle aura des résistances monarchiques dans le domaine politique, avec évidemment le difficile héritage de Napoléon Ier. Elle aura aussi des résistances de protectionnisme dans le domaine économique, car bien après Colbert, il y aura encore des hommes politiques, libéraux politiquement, mais qui seront économiquement des interventionnistes, je pense à Thiers. Et ce n'est qu'à partir du grand traité d'échange, de libéralisation des échanges entre l'Angleterre et la France en 1860, que la France tournera totalement la page du protectionnisme pour s'ouvrir au libéralisme politique. Mais on peut effectivement considérer qu'à ce moment-là, les deux écoles sont ensemble, les deux pays marchent main dans la main pour l'éclosion d'une société libérale en France comme en Angleterre.
Alors faisons une petite pause musicale et reprenons juste après notre entretien. Donc nous sommes avec Michel Guéner autour de son livre donc Les deux libéralismes. Dans la première partie, nous avons essayé de bien montrer cette double naissance ou cette naissance gemellaire à la fois du libéralisme politique et un peu après du libéralisme économique. Et donc vous concluiez notre première partie sur cette naissance de la société libérale que l'on pourrait appeler bicéphale ou avec deux actions, deux connotations, deux champs d'application. Alors, cette société libérale, avant la Révolution française, va être confrontée, et vous reprenez à la fois dans votre introduction et dans cette anthologie, donc il y a, je rappelle pour nos auditeurs, des textes, 300 pages de textes, où vous reprenez les différents éléments des différents auteurs, il y a, me semble-t-il, trois chocs que cette synthèse libérale en train de se chercher, trois chocs à laquelle cette synthèse libérale va être confrontée. 1. La Révolution française. 2. La démocratie, 1840-1850, avec Tocqueville. Et 3. Le communisme et le socialisme. Alors, premier choc, la Révolution française. Vous dites, la Révolution française est finalement une révolution libérale. Elle a été poussée par des libéraux. Alors, comment est-ce qu'on concilie, comment est-ce que la pensée libérale réussit à concilier ce dégagement, cette initiative libéral d'une part, et puis effectivement cette ressaisie politique qui va conduire jusqu'à la terreur.
Alors la Révolution française a fait l'objet d'une exégèse soignée, lourde, et on ne pourra pas parler comme un cheval léger sur cette terre qui a été beaucoup, beaucoup labourée. Je suis plutôt partisan d'une interprétation de cette révolution en deux phases. J'incline à penser que la Révolution française a eu une première phase avant Thermidor qui est plutôt libérale. Elle cherche avec la Constitution de 1791 à créer ce qui est quand même difficile après plusieurs siècles de monarchie absolue. Un régime avec une assemblée, elle essaye d'établir cela. Le libéralisme économique n'est pas en tête, mais pour l'instant on a les fondations d'un premier libéralisme politique. Des auteurs très honnêtement libéraux parlent dans les débats de la Constituante.
Donc ils ont d'ailleurs Sieyès, Mirabeau, Clermont-Tonnerre, Lafayette.
Absolument, voilà. On peut les citer. Vous les citez. Mais ils ont vraiment la qualité de libéraux. Et souvent d'ailleurs, ils citent plus la révolution américaine dans leurs interventions que la révolution d'Angleterre, c'est intéressant. C'est seulement les libéraux, d'après cette période historique, qui regretteront qu'on n'ait pas voté pour un modèle constitutionnel anglais. Voilà, on est dans cette première période, elle est indiscutablement une révolution libérale, et d'ailleurs, quand on est à la fin de cette première période, on aurait pu presque imaginer que la révolution allait se terminer. Elle allait se terminer, c'est-à-dire elle allait devenir une révolution d'Angleterre. Elle aurait des institutions comme la révolution d'Angleterre. Ce que, je le répète, et Benjamin Constant, et Germaine Necker, et tous les libéraux du XIXe siècle regretteront, ressasseront, répéteront à l'infini. Voilà. Et puis il y a ce virage de Thermidor, qui est abominable d'un point de vue historique. Je crois que là, il y a un refoulé monarchique. Il y a un vieux rendez-vous, un vieux et terrible rendez-vous avec une histoire française non totalement abolie et qui débouche à Napoléon, qui n'est qu'une répétition moderne du roi absolu des siècles passés. Mais cette révolution française, elle a été une révolution libérale, au moins pour une des demi-temps du match. Mais alors, ce qui est aujourd'hui absolument exceptionnel, c'est que cette révolution, qui n'aurait donc été libérale que pour la moitié de son temps, elle est aujourd'hui la référence universelle des révolutions libérales. Quand vous parlez aujourd'hui dans le monde entier, et quand vous écoutez, quand vous observez les mouvements de libération politique, c'est 89 que tout le monde a en tête. C'est pas 1688, ni la révolution, on pourrait presque dire, sans aucune méchanceté, provinciale des Américains intervenant une génération avant 1789. Et alors, c'est vraiment toute l'ambiguïté, la force que cette universalité de la référence de la Révolution française, alors même que quand on en analyse le cycle historique, on voit qu'elle est mélangée de beaucoup de tendances qui ne sont pas totalement libérales. Elle reste une révolution libérale de référence aujourd'hui.
Alors, ce que vous dites dans votre livre, toujours texte à l'appui, c'est qu'il y a une coupure quant à l'interprétation de la Révolution française qui s'opère au sein du camp libéral. Soit des gens comme Burke, qui sont défenseurs de la nature humaine et qui critiquent cette abstraction d'un homme, l'homme, celui que je n'ai jamais rencontré, dit Burke, ou des gens comme Penn, qui, eux, effectivement, américains, qui, eux, sont plutôt partisans de la raison et considèrent que, effectivement, nous sommes dans une forme de quelque chose qui, effectivement, a lancé un mouvement qui, malgré tout, a été contrarié par Thermidor.
Alors, vas-y. À travers cette coupure, on a une finesse qui apparaît, une subtilité, une nuance qui apparaît dans la pensée libérale et qui va déboucher sur la création d'un courant conservateur s'opposant à un courant réformiste. C'est au moment de la Révolution française que l'on voit le libéralisme, qui n'avait été jusqu'alors qu'un mouvement frondeur et proprement réformiste, revendiquer d'être un mouvement conservateur et traditionnaliste. Burke inaugure le libéralisme conservateur, ce qui va créer une complication supplémentaire dans l'interprétation du libéralisme. On avait, si je résume jusqu'à ce jour, un libéralisme politique, un libéralisme économique, à l'intérieur des deux, un libéralisme français, un libéralisme anglais, et maintenant on a, à l'intérieur des deux fois deux, un libéralisme réformiste et un libéralisme conservateur. Alors, c'est important parce que, en réalité, à partir de Burke et Tocqueville, Chateaubriand et des auteurs du XXe siècle sur lesquels on reviendra sans doute tout à l'heure, on voit clairement s'inscrire une certaine nostalgie d'un équilibre de la construction libérale qui est perdu par trop de réformes. J'ose avouer, si je permets une confession personnelle, que il y a quelques années, j'avais rencontré dans un débat à la Madeleine, pour lequel j'ai beaucoup d'amitié, et il m'avait dit de manière un peu cinglante et brutale, tu n'es pas un libéral parce que tu es un conservateur. Et je lui avais répondu, mais Alain, je suis un libéral, simplement différent de toi, car je suis un libéral conservateur et toi, tu es un libéral réformiste.
Ce qui inaugure, me semble-t-il, la Révolution française vis-à-vis des libéraux, c'est aussi l'horreur ou la crainte de ce que le libéralisme a enfanté. Est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'il y a une forme qu'on retrouvera après, quand on parlera dans notre deuxième émission de effectivement, la Révolution libérale aujourd'hui et de ce qu'elle a produit, mais un effroi quant aux bâtards. Quant au monstre,
vous parlez juste,
que peut produire le libéralisme. Et donc l'étonnement, quand on était contre le pouvoir absolu, c'était facile. Mais quand effectivement quelque chose est produit qui est d'origine libérale et qui ne correspond pas aux intentions d'origine, à ce moment-là, les libéraux condamnent cet enfant bâtard monstrueux du libéralisme.
Vous parlez très juste. Nous y sommes.
Enfin, nous y viendrons pour aujourd'hui, mais au moment de la Révolution, il me semble qu'il y a quelque chose comme ça.
Dans notre raisonnement, nous y sommes maintenant. La Révolution française crée un homme abstrait.
Oui, ce que reproche Burke.
Délié de ses racines, de son éducation, de sa morale, presque de son milieu...
De sa nation même.
Presque de son milieu social.
Je n'ai jamais rencontré l'homme, dit Burke, je ne connais que les Français, les Anglais, etc.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on mesure combien certains individus abstraits jouent des règles de la liberté politique et de la loi du marché. Et ça rappelle effectivement les préventions, l'avertissement et presque les leçons de morale avant l'heure de Burke. Le libéralisme, quand il pousse un individu à exercer la liberté sans préparation, sans éducation, sans contrôle personnel, aboutit à des choses qui font beaucoup, beaucoup de mal à la société et à l'homme lui-même. On est vraiment au cœur là de ce qu'une certaine conquête de la liberté qui n'est pas accompagnée par un apprentissage, une éducation des hommes peut conduire à n'importe quoi. Et je le répète, on le voit aujourd'hui, alors on en parlera une autre fois ensemble, si j'ai compris. Le moment Burke est très important parce qu'il vient de la nation qui a établi la référence du libéralisme et il voit qu'en France, ce qui est en train de se faire, alors même que la revendication libérale est présente chez les constituants qui élaborent la Constitution, qui va être le premier texte non monarchique, enfin, qui n'appartient pas à la monarchie absolue, on voit bien que ce moment-là est capital. Et c'est vraiment un moment où toutes les subtilités de la pensée se cognent les unes contre les autres et où on voit effectivement une pensée extrêmement riche, avec des courants très variés, qui va dominer jusqu'à nos jours, se fait là, à ce moment-là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, sans doute, la Révolution française, étant cette mosaïque de subtilités fortes, reste une référence universelle de notre temps.
Alors, deuxième choc, et ça sera le dernier point, parce que le troisième choc, on ne l'abordera pas, mais le deuxième choc, c'est cette confrontation entre le libéralisme et la démocratie. Je pense en particulier à Tocqueville. Là aussi, il y a une forme d'étonnement, de synthèse difficile. Tocqueville regarde la société telle qu'elle est et voit en germe ce qu'il appelle la démocratie, c'est-à-dire ce souci d'égalité qui est poussé jusqu'à ses conséquences les plus extrêmes et qui va conduire, dit-il, l'individu à être dissocié de la société et à se replier sur lui-même et à laisser l'État tutélaire s'occuper de tout pour son propre plaisir. Est-ce qu'il y a là, pas quelque chose aussi, autrement, 50 ans plus tard, d'effroi aussi de ces libéraux qui à la fois voulaient cette société-là et constatent qu'elle a en germe des éléments qui vont se retourner contre cet équilibre dont on parlait au début entre la liberté politique et la liberté économique.
Jusqu'à la découverte de Tocqueville, le libéral n'a qu'un ennemi, la tyrannie du pouvoir. Avec la découverte de Tocqueville, le libéral se découvre un deuxième ennemi, l'égalité dans la société. L'ennemi n'est plus, comme c'était avant, simplement un pouvoir qui écrase les individus. C'est une société qui évolue vers un nivellement des individus et qui leur fait autant de mal que le pouvoir jadis honni. Et c'est vrai que là encore, on atteint un degré différent de la construction libérale. Alors là, pour le coup, on rentre dans un registre qui reste très fort chez les libéraux, qui est la devination de l'avenir. Et on a, chez Tocqueville, dans « De la démocratie en Amérique », le premier livre qui regarde le libéralisme du point de vue des tendances de l'avenir et non plus ressasse une expérience passée comme, sans doute, les auteurs plus prisonniers des événements révolutionnaires et napoléoniens regarderont toujours la France par rapport à telle ou telle tendance. Un auteur qui reste central dans la pensée libérale, qu'on ne peut pas ne pas citer tous les deux, c'est Benjamin Constant. Bon, mais Benjamin Constant, on voit ses différents libelles, ses discours, les quelques discours qu'il a pu prononcer, ses textes. On voit qu'il est un homme qui positionne son temps par rapport au passé. Tocqueville positionne son temps par rapport à l'avenir. Et la différence, elle est profonde là. Ce qui explique d'ailleurs que Tocqueville aujourd'hui est universellement étudié et que Benjamin Constant est considéré comme un témoin d'une époque. Sans doute réduction injuste, mais malgré tout, et là où votre question est juste, la démocratie telle que l'a analysée Tocqueville a, mais directement défié, la construction libérale. Alors, au XXe siècle, la démocratie reviendra à ce complément que peut apporter le libéralisme. C'est indiscutable, mais la démocratie fera beaucoup de mal à la synthèse libérale dont nous parlions tout à l'heure. Au commencement du XIXe siècle, la lucidité de Tocqueville crée une tristesse que n'a jamais aimé Raymond Aron, a-t-il écrit, mais qui reste quand même une vraie sagesse historique à mettre au pied de la grande aventure libérale de 4 siècles.
Terminons cette première émission sur le troisième choc, que je résume rapidement, parce que nous n'avons plus le temps, mais qui est effectivement cette confrontation qui va être celle de la pensée libérale, et on pense à Raymond Aron, dont vous parliez, à Bertrand Jouvenel, pour ne parler que de deux auteurs français, qui sont confrontés à la fois au totalitarisme, et puis à ce primat de plus en plus important du socialisme, du communisme, d'une autre alternative qui va laminer, parce que l'histoire est dans ce sens-là, qui va éliminer le libéralisme tel qu'il existe aujourd'hui.
Allez-y, au XXe siècle, j'ai le sentiment, personnellement, que les deux libéralismes se reséparent. On a vu qu'ils étaient nés différemment, s'étaient regroupés dans une synthèse libérale autour de la Révolution française, essentiellement au début du XIXe siècle. Au XXe siècle, ils se séparent. Le libéralisme politique redevient un libéralisme de résistance au pouvoir et le libéralisme économique poursuit son aventure du défrichement, de la connaissance, de la théorisation des vertus du marché. Et c'est pourquoi on voit simultanément un Raymond Aron et un Milton Friedman qui ne parlent plus la même langue. On a un Raymond Aron qui est inquiet parce qu'il cherche les périmètres à sauvegarder de la liberté politique. Un Bertrand Jouvenel, dont on a beaucoup critiqué certaines erreurs de jeunesse, mais qui, dans Du pouvoir, un formidable livre, essaye de remettre en perspective le statut de la liberté politique. Et puis à côté, on a tous ces universitaires qui, dans la deuxième moitié du XXe siècle aux États-Unis, ont engendré le néolibéralisme, dont je crois nous allons parler une autre fois.
Absolument.
Ce néolibéralisme qui a trahi l'aventure du libéralisme.
Et Michel Gannaert, merci beaucoup. Donc, je renvoie nos auditeurs à votre livre, donc Les deux libéralismes, anthologie publiée chez Perrin cette année, en 2011. Et puis, j'indique à nos auditeurs que donc, nous ferons bientôt une prochaine émission, toujours avec Michel Gannaert, sur la crise du libéralisme aujourd'hui. Et effectivement, comment est-ce que d'une façon ou d'une autre, on pourrait en revenir, d'une façon ou d'une autre, à un libéralisme épuré de sa démesure propre. Merci beaucoup.
Merci.